Bonjour à tous et bienvenue sur Réussir en immobilier. Moi, c'est Julien, investisseur depuis 2015. En couple avec Fiong et jeune parent, on partage ici notre vie d'investisseur, nos peurs, nos doutes, mais aussi nos victoires. Nous racontons nos expériences sans fausses promesses ni détours. Réussir en immobilier, c'est une façon pour nous de partager tout ça avec vous. Des articles, mais aussi des interviews comme celle-ci, pour vous permettre d'investir sereinement en toute sérénité. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucun partage d'expérience. Et dans ce premier numéro, j'accueille un invité un peu spécial. Il est à la tête d'un parc de logements d'environ 60 logements. Il a réussi à monter tout ça en moins de 5 ans sans aide particulière au départ. Il vient de lancer sa propre application Rent2All. J'accueille Fred. Salut Fred, comment ça va?
Très bien, merci
Julien. Bon, je suis très content de t'avoir ici dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour un peu que les auditeurs connaissent un petit peu ton parcours et qui tu es?
Oui, très bien. Donc moi, c'est Frédéric Lozac, je suis investisseur immobilier. Aujourd'hui, je vis de mon immobilier. J'ai une soixantaine d'appartements. J'ai aussi une activité à côté où je fais de temps en temps des affaires en marchand de biens. J'ai aussi une société où je fais un peu de location de taxi. Des licences que j'ai achetées et que je loue. Et à côté de ça, j'ai aussi lancé une application qui s'appelle Rent2All. On aura l'occasion d'en parler à côté. Et aujourd'hui, je vis de mon immobilier, voilà.
D'accord. Donc, on est bien d'accord que la plus grosse partie aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur, c'est l'immobilier quand même.
Ah oui, c'est vraiment un point déterminant. Aujourd'hui, pour en vivre, il faut vraiment avoir un certain volume. Et voilà, les marchands de rêve qui disent avec un ou deux biens qu'on peut devenir rentier... Faut me le démontrer. Ouais. Et pour l'instant, j'en ai pas rencontré.
Je suis d'accord avec toi. On va revenir là-dessus si tu le veux bien, comme quand tu as commencé dans l'immobilier. J'avais parlé dans mon article en fait, que tu avais eu un déclic par rapport à ton patron à l'époque. Tu avais discuté par rapport à une histoire avec ton enfant. Est-ce que tu pourrais revenir, toi, sur ce moment précis et nous raconter en fait, ce déclic-là? Qu'est-ce que tu as fait par la suite, juste après tout ça? Est-ce que c'est ce moment-là qui a fait que tu as basculé?
C'est clairement ce moment-là. En fait, je vais expliquer un petit peu la chronologie. Je voulais investir dans l'immobilier depuis toujours, en fait. Et je suis rentré dans cette société-là. C'était une grosse société industrielle, pas mal d'unités. Et on m'a promis de devenir responsable, peut-être même directeur par la suite. Ce que j'ai fait, au fur et à mesure des années, j'ai grandi. Et je gérais un peu une grosse partie de la boîte et de la société. Et en fait, j'avais vraiment envie que mes enfants aient des bonnes écoles, tout ce qu'il fallait bien. Et je me suis renseigné, j'ai trouvé une école avec le principe de Montessori qui me plaisait beaucoup. En plus, ils apprenaient à parler anglais en même temps, dès la maternelle. Donc, c'était vraiment très cool.
C'est bien connu, Montessori. Ouais.
Exactement. Je discute avec mon patron et en fait, tout simplement, je lui dis « Mais est-ce que vous connaissez cette école ?» Il me dit « Oui, mes enfants y sont. » Je dis « Mais c'est super. » Du coup, vous pourriez faire quelque chose pour essayer de me faire rentrer. Il me dit, oui, bien sûr, je connais la directrice. Je dis, c'est parfait. Et je le vois, il tire une cigarette électronique, il se met à pouffer de rire.
Et pourquoi ça?
Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, il souffle, il me dit, c'est simple, c'est 6 000 euros par enfant.
Il souffle. 6 000 euros par an?
Ouais, par an, par enfant.
Ouais.
Et il rigole, il se lève, il me tourne le dos, il s'en va.
Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était plutôt assez dur là pour toi. Là,
j'ai eu un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait dans ma vie pour que mes enfants, ils n'aient pas le droit d'aller dans la même école que ce monsieur.
Ton patron, ouais.
Voilà. Alors que c'est moi en plus qui gérais le truc, qui faisait, voilà.
En plus, tu étais directeur adjoint de cette boîte.
Oui, c'est ça, exactement.
En gros, le patron, il était là, mais c'était toi qui digérais tout. Quoi.
Je ne veux pas dire qu'il faisait rien, pas du tout, ce n'est pas le but. Ouais. Mais voilà, il était en poste de directeur général et moi, c'est vrai que les tâches ingrates, elles étaient toujours pour moi. C'était comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 jours, j'ai tourné en boucle. J'ai refait un peu le schéma de ma vie. J'ai cherché à comprendre pourquoi j'en étais arrivé là. Surtout qu'en rentrant dans cette boîte-là, 20 ans avant, enfin, c'était 15 ans avant à l'époque, mais je voulais faire de l'immobilier. Et en plus, ma seule priorité, c'était... juste acheter un appartement par an.
D'accord.
Mais si je l'avais fait, à l'époque, l'immobilier, ça ne valait pas du tout ce prix-là. Ouais. Ça valait un studio, ça valait entre 15 et 20 000 euros. On en trouvait partout. Financement, ce n'était pas comme maintenant. On pouvait emprunter. Il y avait à l'époque encore voilà, il y avait plein de banques qui prêtaient très, très facilement. Il n'y avait même pas de calcul d'endettement.
Donc, tu aurais fait ça à cette époque-là. Là, tu aurais déjà un très gros patrimoine.
Exactement. Donc, en fait, la vraie remarque que je me suis dit, c'est Fred, comme tu n'as pas eu l'audace ou un autre mot, voilà, de faire ce qu'il fallait, bah, en fait, aujourd'hui, c'est tes enfants qui vont en pâtir.
D'accord. Et c'est à partir de là que tu as eu vraiment le déclic que tu as...
Et je me suis dit, bah non, c'est impossible que je laisse faire. Maintenant, je vais résoudre le problème. Ce que j'aurais dû faire à l'époque, je vais le faire. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, à me former, à regarder des vidéos YouTube, à vraiment commencer à faire des visites, chercher. Et là, j'ai vite compris que le seul moyen de rattraper mon retard, parce que c'était ça, je m'étais dit, ouais, je voudrais avoir une vingtaine d'appartements, ce que j'aurais dû avoir. C'était très simple, il fallait que j'achète que des immeubles et que je les enchaîne.
D'accord. Donc, tu as été directement vers les immeubles de rapport.
Exactement.
Et ton premier bien que tu achètes, le tout premier, c'était un immeuble de rapport.
C'était ça.
D'accord.
J'ai cherché pendant plus de 6 mois.
Ouais.
Et quand je l'ai trouvé, c'était une ville à côté de chez moi, une ville assez sympa, en ouais, croissance.
Tu connaissais un petit peu le secteur, donc.
Je connaissais un peu le secteur. J'avais fait un peu de travaux. J'avais déjà rénové un peu une maison avant. Mais j'ai acheté un immeuble avec un appartement qui... C'était un immeuble de 4 lots. Dont ouais, un, donc tout était vide, dont un appartement, il n'y avait plus de porte d'entrée, il avait été squatté, il était dans un état calamiteux, et en fait, le gars qui était dedans, c'était un espèce de marginal qui tirait au pistolet à plomb sur les gens d'en bas, parce qu'en bas, il y avait une auto-école.
Ok, ça ne t'a pas fait peur, ça? Ça ne t'a pas fait peur du tout?
Non, parce que j'étais tellement motivé, en fait, ça ne m'a pas fait peur. Bon, après, avec le recul, je me suis dit que c'était quand même un peu chaud, mais bon,
d'accord,
j'ai foncé, quoi.
Et pour ton premier bien, justement, avec cette problématique que tu as eue, est-ce que tu as eu des problèmes juste derrière? Parce que les gens, justement, ils ont souvent peur de passer à l'action. Et toi, en plus, tu as commencé sur un immeuble de rapport où il y avait un petit truc un peu costaud, quoi.
Oui, il y avait, bah, j'ai eu des surprises, hein, évidemment. J'étais en train de refaire une salle de bain dans un appartement là-haut. Il y avait la cabine de douche qui était montée. Je dis, c'est super. Il n'y avait pas l'eau, tout était fermé, les compteurs. Donc, j'achète, je mets l'eau en marche. Déjà, première surprise, pendant 2 ans, il n'avait pas été habité. Je mets l'eau en marche. Toute la plomberie, pff, l'eau partout,
d'accord,
inondation, la plomberie avait gelé, tout a explosé quand j'ai mis en marche. Je répare tout, je remets correctement, je vais dans cette fameuse salle de bain pour le faire, et là je cherche les tuyaux d'arrivée, je pousse la douche, je cherche les tuyaux d'arrivée, ouais, pas de tuyaux. Je redescends à la cave, je retrouve les tuyaux, et là je regarde, je nettoie au niveau du sol, et là je vois qu'ils ont été coupés à même la dalle.
D'accord, ah ouais, chaud quand même.
Marteau piqueur à 1h du matin, en train de tout casser.
C'est toi, t'as tout fait.
J'ai tout fait.
Sur cet immeuble, t'as fait tous les travaux.
J'ai tout fait. Alors j'avais prévu 6 mois.
Ouais.
Ça a duré 9 mois, le temps d'un accouchement.
D'accord. Et donc t'as fait appel à aucun artisan, t'as tout géré.
Ah, j'ai tout géré.
Et une fois que t'as eu fait les travaux, par contre, tout s'est bien passé. T'as trouvé des locataires.
J'ai trouvé des locataires. J'ai trouvé des locataires. Dès le deuxième, je me suis fait bananer. Le gars, en fait, était une nourrice,
ouais,
de drogue.
Ouais.
Et en fait, c'était ses parents qui l'avaient fait rentrer. Ils m'avaient donné un super dossier. Moi, je l'avais, ouais, comme je vous étais pressé de louer vite.
Faux dossier.
Un faux dossier, exactement. Je me suis empressé de lui louer. Et une semaine, 2 semaines, je ne le voyais pas aller travailler. Les voisins m'appellent. Ils me disent, vous savez que le gars là, que vous avez fait rentrer, en fait, il y a des voitures tous les quarts d'heure qui passent. Il passe son temps à rentrer, sortir. Il y a des allées et venues.
Ouais.
Et là, je me renseigne, je le demande, ils prennent des photos, ils m'envoient, et en fait, je comprends vite que c'est une nourrice, quoi, qu'en fait, ils stockent chez lui et que des dealers viennent, voilà.
D'accord. Donc, ouais, t'avais eu quand même des soucis là-dessus.
Ah, j'ai eu des soucis. Mais je l'ai fait partir correctement. Hein. J'ai été le voir un petit matin, à 6 h du matin, j'ai frappé à la porte et je lui ai dit qu'il fallait qu'il me donne son préavis, qu'on arrêtait proprement, ouais, sinon. Parce que je me suis rendu compte que son père avait fait un faux dossier. Et à l'époque, il avait retrouvé un autre travail ailleurs. Et en fait, je connaissais l'employeur où il travaillait.
Ah ouais, d'accord. Donc, tu avais quand même des moyens pour qu'il parte, etc.
J'avais des petits moyens de pression.
Ouais, ouais. Tu t'es dit, il faut mieux partir que partir dans des embrouilles.
Exactement. Bah, vaut mieux un mauvais accord plutôt qu'un bon procès. Hein. On ne va pas se mentir, on est en France.
C'est clair.
Voilà.
D'accord. Donc là, en fait, c'était 4 lots. Donc, 4 lots au départ.
4 lots, ouais.
Et là, aujourd'hui, on va dire que tu as une 60 tonnes de lots.
Oui.
Donc, il y a des investisseurs qui arrivent à faire ça 4 lots. On en a acheté un deuxième après. Mmh. Ça fait 8, 10 lots. Il y en a beaucoup qui vont à 10 lots. Mais par contre, quand on passe de 10 à 60, ce qui est intéressant comme question, c'est qu'est-ce que tu as mis en place pour multiplier, pour aller justement de passer de 4 lots à 60? Parce que ça a été assez vite.
En fait, dès le début, je me suis dit, j'ai bien étudié le système bancaire et tous les fonctionnements. Et j'ai malheureusement, heureusement, j'ai vite compris, mais malheureusement, j'ai vite compris aussi que faire tous ces immeubles-là en une seule banque, ça serait vite très compliqué. Ouais. Donc, et pareil, je m'étais formé, j'avais vu ce qui existait, j'avais rencontré différentes personnes. Et
tu t'es formé quand même beaucoup tout seul sur les réseaux, tout seul.
Oui, la première étape, ça a été beaucoup du gratuit sur YouTube, parce que malgré tout, en cumulant, on arrive quand même à avoir quand même quelques informations.
Il y a beaucoup d'informations, ouais.
Et après, dès que j'ai fini le premier immeuble, là, j'ai acheté une formation. J'ai commencé à me former pour de vrai, et surtout au niveau de la fiscalité, parce que le premier, évidemment, j'y connaissais rien, donc j'ai acheté en nom propre. Et donc tout a été lancé.
Location nue.
Okay. Et quand j'ai commencé à me rendre compte que j'allais avoir à payer pourcentage, plus la TMI, plus CRG, RDA, je me suis dit waouh.
Ouais, faut quand même que je me forme un petit peu.
Exactement.
Si je veux multiplier, ça va pas très bien se passer pour moi.
Exactement. Donc là, en me formant, j'ai découvert la défiscalisation, le déficit foncier, le statut LMNP. Et là, justement, j'ai commencé à chercher des immeubles très ciblés qui étaient vraiment adaptés à ces profils-là.
D'accord. Voilà. Tu étais toujours dans les immeubles, par contre. Tu es vraiment resté sur ta stratégie immeuble de rapport.
Exactement. Il était hors de question que je perde du temps. En fait, il y a vraiment un critère, important, c'est l'aspect temps. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas remplacer. Donc, en fait, quand j'ai acheté le deuxième immeuble, j'ai acheté un très gros bâtiment où j'ai fait six lots, mais des T3, des T2, des choses
toujours
assez importantes.
Toujours autour de chez toi, c'était ça ?
Exactement, à côté de Compiègne, okay. Oui. Et donc, j'ai acheté cet immeuble avec des gros travaux. Il y avait autant de budget foncier que de déficit foncier. D'accord. Et donc, ça m'a permis pendant plusieurs années déjà de ne pas avoir d'impôts.
Oui, parce que tu as fait beaucoup d'innovations.
Exactement. Voilà.
Et ça, c'était six lots.
Exactement. Et donc, cette partie-là, travaux, je la déléguais, en fait. J'avais une entreprise que j'avais trouvée qui réalisait. Et moi, pendant ce temps-là, j'en ai acheté un troisième en parallèle.
D'accord.
Dans une autre banque. Et j'ai été faire les travaux du troisième qui, lui, était en LMNP avec moins de travaux importants.
D'accord.
Où je continuais à échanger mon temps. Et en plus, j'avais le cash flow du premier qui permettait de réinvestir dans celui au niveau du LMNP.
D'accord.
Donc là, c'est avec cette stratégie-là, j'avais déjà trois immeubles et ça a été assez rapide.
D'accord, ouais, je comprends. Déjà, tu avais déjà une bonne stratégie. Tu avais commencé à déléguer toute la partie travaux
exactement.
Du deuxième immeuble. Et toi, tu t'occupais déjà du troisième que tu avais signé avec une autre banque, j'imagine.
C'est ça, exactement. C'était impossible, je ne pouvais pas tout faire de mes mains, surtout à des gros postes de travaux.
Ouais, bien sûr, en plus, tu faisais tout seul.
Exactement.
Ça me fait en fait penser à une autre question par rapport aux auditeurs que j'ai qui sont souvent des débutants. Beaucoup achètent, par exemple, ils auraient pu acheter le premier immeuble. Et puis après, en fait, ils attendent. Ils laissent les choses se tasser. Ils ne trouvent pas de locataire. Ils ne font pas faire les travaux. Et pour toi, ça n'a pas été ton cas. Toi, qu'est-ce qui a fait, en fait, que ça t'a mis en mouvement tout de suite ? Par exemple, tu es passé de 1, tu avais un immeuble de rapport. Très vite derrière, tu es passé à 2. Et de 2, tu t'es dit, ils sont en train de faire les travaux. Allez, je ne vais pas perdre de temps. Moi, j'achète un troisième avec une autre banque. Et c'est cette capacité. En plus, je connais ça chez toi. C'est que toi, tu n'es pas en train de réfléchir pendant 15 jours. C'est on fait quelque chose, on y va tout de suite, et s'il y a des problèmes, on réglera après. C'est bien
exactement.
Ça.
Exactement. En fait, Alors après, c'est vrai que j'avais aussi cette expérience d'avoir dirigé des gens pendant pas mal d'années, et je sais que la meilleure façon de résoudre des problèmes, c'est justement d'aller dans l'exécution et de prendre des décisions. Parce que même une mauvaise décision, elle pourra être corrigée très rapidement, en 2 semaines, 1 mois, alors que pas prendre de décision, être statique, c'est terrible. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois.
C'est ça, le temps passe.
Voilà. Et en fait, on pense prendre la bonne décision et c'est peut-être pas la bonne. Si ça se trouve, en plus, on fait une connerie, on va rentrer dans le même chemin derrière. Donc, c'est du temps perdu. Donc déjà, l'exécution et la réalisation, c'est une étape très importante. Après, en termes de mindset, j'essaie toujours quand je me regarde dans la glace le matin, je me remets en cause tous les matins et j'essaie de me reformater. Vraiment, en termes de mindset, c'est vraiment important. Tout le monde en parle, tout le monde fait plein de blabla là-dessus. Mais c'est vraiment important au niveau du cerveau, de se remettre à zéro et de réattaquer. Donc, à chaque fois, j'avais pas envie d'y aller le soir. Après mon boulot, je sortais, il était 19h du travail.
Ouais. Donc en fait, tu avais toujours ton boulot de directeur adjoint.
Oui.
Et une fois que tu avais fini, tu allais dans tes immeubles, soit
tous
le premier,
soirs. Le premier, je le faisais déjà. Et le deuxième, le troisième, en fait.
Le troisième que tu es en train de rénover tout
seul. Exactement.
Travaux, tu faisais tous les soirs, tu allais dans l'immeuble.
Et je passais sur le chemin, aller voir le deuxième pour voir ce que les gars, ils avaient avancé niveau travaux pour pas qu'ils me racontent des bananes ou des
bêtises. Tu avais un vrai suivi là-dessus, ouais.
Exactement. Donc, tout ça, et j'arrivais sur le chantier à peu près à 9h du soir. Et je bossais jusqu'à minuit et 1h du matin. Okay. Et je recommençais la boucle et je recommençais le boulot. Je me levais à 6h le matin et j'allais bosser à 7h30, voilà.
Et ça, ça a duré combien de temps, ça, pour à peu près jusqu'à que t'as
le troisième, il a été un peu plus rapide. Le premier, il a été très dur. J'avais même envie de chialer le soir par moment. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Si ça se trouve, je fais de la merde, je suis en train de... Voilà. Ça serait tellement plus facile d'aller se mettre devant la télé et de dire, on verra demain. La pire des phrases, c'est « on verra demain ». Mais surtout pas. Si on a lancé une chose, on dit on se met un objectif, il faut le réaliser coûte que coûte. Mmh. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit. Il faut réaliser coûte que coûte. Mmh. On se débrouillera, on y arrivera.
Surtout que tu parles de ton premier immeuble où il y a eu beaucoup de problèmes.
Ouais.
Et il y en a beaucoup, justement, qui ne sont pas formés ou quoi que ce soit, qui auraient été là-dedans, qui auraient dit « non, moi, j'ai eu trop de problèmes là-dessus, j'arrête, je stoppe ». Alors que toi, c'était l'inverse.
Ouais.
Tu as multiplié par 2, par 3, etc., par beaucoup après derrière.
Ah oui, encore une fois, c'est une question de mindset. En fait, faut pas oublier, on a tous été bébés, on a tous appris à marcher. Et le meilleur moyen de marcher, même de courir, c'est de commencer et de tomber. Hein. Et après, on apprend, on met les mains en avant, on fait attention où on va.
Ouais.
On ne retombe pas deux fois. Hein. Il faut tomber une première fois, on apprend de ses bêtises et après on évolue. Et donc, moi, j'avais considéré que sur le premier, j'avais déjà fait pas mal de... pas mal de conneries, je pouvais faire les autres en étant plus serein.
C'est plutôt pas mal, ouais, c'est plutôt pas mal. Et là, donc, tu m'en as parlé de trois et après, ça s'est enchaîné pareil avec différentes banques, toujours immeuble de rapport, toujours le même process en fait.
En fait,
tu as multiplié ton process plusieurs fois jusqu'à beaucoup.
En fait, le quatrième, ça a été pareil au niveau du LMNP. Je suis retourné voir ma première banque qui n'avait pas forcément information du troisième. Et j'ai dit, voilà, je veux faire un autre immeuble. Voilà les chiffres. Ils m'ont dit, ah, mais vous en avez déjà pas mal en cours. Je dis, ouais, mais regardez le cash flow du premier. Remettez le deuxième. Faites-moi le calcul. Et à l'époque, on avait encore le calcul. Le calcul de... Je sais plus comment on appelle ça. Le calcul différentiel.
Ils prenaient en compte les loyers par rapport à tes crédits. Et comme toi, tu avais beaucoup justement de loyers, on pouvait te donner plus
c'est
de crédits
exactement
pour
ça.
Emprunter encore plus.
À alors cette
qu'aujourd'hui,
époque,
c'est
beaucoup plus compliqué. Avec les règles du HESF, c'est plus compliqué. Maintenant, c'est différent. Mais à l'époque, plus on faisait d'investissement, tant qu'on était rentable, le taux d'endettement baissait. À la fin, j'étais descendu à 11%. Donc, ils m'ont dit oui tout de suite pour ce quatrième immeuble que j'ai fait en LMNP. Et voilà, et ça, je l'ai enchaîné direct.
Ça a continué,
Alors, par contre, celui-ci, j'ai fait faire.
T'as délégué.
J'ai tout délégué. En plus, il y avait un bien où c'était ma première LCD qui était dedans.
D'accord.
Voilà.
Ça, c'était toujours dans l'Oise ?
Non, c'était à Amiens. J'ai pas précisé, mais le troisième aussi. Le troisième et le quatrième étaient à Amiens.
Centre-ville d'Amiens, non ?
Oui, centre-ville, assez étudiant. Donc, j'avais pareil, plusieurs sécurités. En fait, à chaque fois que je fais des investissements, j'aime bien me mettre plusieurs cas de figure où, en fait, j'ai toujours un filet de secours. Comme là, j'avais fait le Airbnb. Mais si ça n'allait pas, je pouvais très bien le relouer.
Basculer
exactement, en meublé étudiant, pour des profs, parce qu'il était assez beau quand même.
Mmh.
Voilà, les loyers pour des bons biens, ça reste quand même assez cher dans cette ville. Et voilà.
Ok. Et par rapport à tout ça, donc là, j'ai vu que tu as multiplié tous les investissements. Est-ce que pendant le chemin, tu m'as dit que tu as eu quand même pas mal de soucis. Est-ce qu'il y a une erreur vraiment que tu te souviens qui t'a vraiment marqué, que tu aurais faite, toi, et qui t'a servi par la suite ? Une grosse erreur qui te reviendrait comme ça ou pas plus que ça ? Ou c'est un enchaînement de plusieurs choses, des locataires compliqués ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient comme ça à l'esprit ?
Oh, j'en ai fait quand même pas mal des bêtises sur le premier. Déjà, sur le premier, pour les auditeurs, c'est un point super important. C'est déjà, faut pas, au niveau des banques, quand vous faites votre demande de financement, faut pas dire spécialement ce dont vous avez besoin. Faut dire ce que vous voulez.
Donc,
c'est-à-dire, par exemple, si moi, j'avais prévu 6 mois de travaux. J'ai été estomaqué de me rendre compte qu'en fait, on pouvait avoir 2 ans, 3 ans
différé par rapport aux travaux, etc.
Exactement. Alors après, il faut savoir aussi, il y a un point très important, ça aussi, je le dis, c'est que attention, Il y a, à chaque fois qu'on tire des bénéfices, entre guillemets, de ces choses-là, il y a aussi des inconvénients. Là, le différé que j'avais fait sur le troisième, dans une banque, je ne vais pas rentrer trop dans les détails au niveau des banques, mais en fait, j'avais demandé un différé au banquier. Et en plus, dans la condition du prêt, il y avait une condition supplémentaire qui précisait que si on ne débloquait pas l'intégralité de la somme, on avait le droit jusqu'à 3 ans de report. Mmh. Donc en fait, j'ai eu 3 ans plus une année.
D'accord, en gros, tu as eu 4 ans.
Voilà, et donc ça a ramené 1 650 € par mois, ce petit immeuble. Il y avait 3 lots et j'avais que 150 € d'intérêt parce que les intérêts n'étaient pas trop chers à cette époque-là. J'avais 1 500 € qui tombaient tous les mois.
D'accord, tu avais quasiment un salaire ans. Qui tombait pendant 3 ans, plus 1, donc ça faisait 4 ans. Ça, c'était une bonne opération.
Ah, c'était une très bonne opération.
Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué.
Ça serait un peu plus compliqué. Mais cette banque-là, les 2 autres fois où j'étais derrière, demandait du financement, ils m'ont répondu.
Ah, ils ont dit non.
Tant que le différé, il est pas bouclé, tant que vous commencez pas à rembourser votre prêt, on vous refinance pas. Donc, attention. Voilà, quand on fait des tactiques comme ça, c'est très bien, mais il faut savoir derrière. Ou alors, il faut l'anticiper. On se dit, dans 6 mois, je vais avoir besoin de financement. Je débloque à partir de maintenant. Et voilà. Mmh. Mais ça permet quand même de refaire une bonne trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Ma plus grande difficulté dans ce chemin, ça a toujours été de trouver la trésorerie. Parce que c'est bien beau de faire des immeubles, mais à chaque fois, il faut mettre des apports, il faut payer des frais, il faut tout enchaîner.
Il te fallait quand même un petit peu d'apport pour payer les frais de notaire, etc., pour pouvoir enchaîner.
Surtout que plus je suis monté, plus je me suis dirigé vers des banques professionnelles, et plus ces banques professionnelles demandaient justement des apports de plus en plus importants.
Conséquent, parce que tu avais un patrimoine de plus en plus important, et le risque était de plus en plus important aussi.
C'est ça.
Bon, super en tout cas. Merci pour cette partie-là immobilier que tu nous partages. Et maintenant, on va revenir, si tu veux, sur la partie plus entrepreneur.
Oui.
Parce que j'ai appris justement il n'y a pas longtemps que maintenant, en plus d'être un investisseur immobilier, tu deviens un vrai entrepreneur et tu as créé en fait l'application qui s'appelle Rent to All, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Elle se prononce bien comme
Exactement.
Ça.
Exactement.
Donc, si c'est ça, c'est une plateforme de location de parking type Airbnb, à peu près comme ça. Il n'y en avait pas, en fait, ça n'existe pas ailleurs. Et tu as créé ça. Est-ce que tu as créé ça, justement, par rapport à ton parcours immobilier? Est-ce que tu as vu le besoin ailleurs? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, nous présenter Rent to All, etc.?
Bien sûr. Donc, Rent to All, c'est une plateforme de location de courte et moyenne et longue durée pour louer tous les espaces annexes, en fait. C'est-à-dire, bien sûr, les parkings, mais aussi des caves, des box, des salles de réception, des bureaux ou coworking et même des terrains.
D'accord, donc c'est vraiment très large en fait.
Tout ce qui n'est pas logement d'habitation, vous pouvez le mettre. Dès que c'est des mètres carrés qui ne sont pas d'habitation, vous pouvez les mettre sur Rent to All.
D'accord, donc là, c'est bien que tu le précises parce que même moi, quand tu me l'avais présenté, on a l'image location de parking, mais en fait non. Il y a beaucoup. Quand tu me dis coworking aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font du télétravail.
Exactement.
Donc on se retrouve avec plein de locaux commerciaux qui sont libres. Donc ça veut dire que ces gens-là pourraient les mettre sur ta plateforme.
Tu as bien résumé.
Et pour avoir un besoin.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a un point important, c'est qu'en fait, toute la partie d'habitation, elle est extrêmement encadrée aujourd'hui en France. C'est-à-dire, il y a des lois de 49, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, les locataires en place sont très protégés. C'est en France, c'est comme ça, c'est un choix du gouvernement. Et donc, c'est très bien, mais donc, ça devient extrêmement contraignant. On le voit d'ailleurs, il y a une grosse pénurie du logement. Ils ont un peu les conséquences de ce qu'ils ont semé.
Avec les diagnostics, etc.
Exactement.
Ça, c'est du côté
Exactement.
Du propriétaire.
Pour le propriétaire, c'est quand même devenu extrêmement compliqué. Si bien qu'aujourd'hui, il faut quasiment être un professionnel de l'immobilier extrêmement bien formé pour réussir à... Voilà, c'est pour ça que ta chaîne aussi, elle existe. C'est pour ça, pour connaître tous les tenants et les aboutissants avant de se lancer. Et par contre, à contrario, tous les espaces annexes, des parkings, des caves, des box, qui ne sont pas de l'habitation, il n'y a aucun verrouillage, il n'y a aucun encadrement. Donc en fait, bien sûr, vous pouvez faire des baux, mais vous n'êtes pas obligé de faire des baux. Vous pouvez très bien passer par une application tierce qui gère les paiements, qui gère une automatisation et des sécurités avec des cautions. Et donc, ça permet d'avoir une location qui est même payée au mois. Vous recevez vos revenus chaque mois, sauf qu'il n'y a pas besoin d'aller faire plein de visites. Il y a plein d'avantages. Et donc, c'est en partie D'accord. pour ça que j'ai fait Rentool.
Donc, c'est sur l'application qui édite directement le contrat, en fait, entre celui qui propose. Donc, imaginons, moi, je suis propriétaire d'un parking ou un auditeur de Réussir en immobilier, il a une place de parking ou quoi que ce soit.
Exactement.
Il va s'inscrire sur ton site, il met sa place de parking, il la loue, je ne sais pas moi, 5 jours dans le mois et il peut très bien la louer. Et toi, tu vas lui rendre, s'il la loue, je ne sais pas moi, 50 euros, il a fait 50 euros de revenus sur ton site dessus. Toi, tu vas lui retrocéder directement avec une commission, j'imagine.
Oui, en fait, la commission, elle est payée par le loueur final, mais le propriétaire, lui, il touche le montant qu'il avait précisé dès le début. Il y a une commission, en fait, très transparente. Pour être très transparent, il y a une commission de Rentool qui est de 5%. Et après, il y a le système de paiement qui est Stripe, qui aujourd'hui est le leader du marché et très connu et qui permet de mettre une caution. En plus, comme ça, le propriétaire peut mettre une caution dès le début. Il est extrêmement sécurisé s'il y a un badge ou s'il y a quoi que ce soit d'autre. Et donc, il touche le montant qu'il avait précisé. Pour lui, c'est totalement transparent.
D'accord. Ça, c'est plutôt pas mal.
Exactement. Il n'y a pas de système d'abonnement. Les applications et le logiciel sont totalement gratuits. Donc, c'est uniquement à commission. Tout est vraiment transparent et, voilà, et simple.
Quand tu dis pas d'abonnement, on peut mettre une place de parking pendant 6 mois. La personne en a besoin. Il la retire automatiquement le jour d'après. Elle est retirée de l'application.
Exactement.
Et il utilise sa place.
Exactement. C'est exactement ça.
Et il veut faire l'inverse. Si ça marche très bien, il dit finalement, j'en ai 10. J'ai testé avec eux, ça marche bien. Je mets mes 10 places de parking. Je le fais dessus sans problème.
C'est exactement ça. Mais il peut même faire mieux. S'il est dans une zone tendue, l'application, en fait, elle permet de choisir si on veut louer à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois.
Et oui.
Donc, si c'est dans une zone tendue, c'est tout l'intérêt du logiciel. Ou ça peut même être géré seulement pendant une certaine zone d'horaire. Je donne un cas de figure très classique. Il y a des personnes, ils ont une place de parking. D'ailleurs, propriétaire ou seulement locataire, ça ne change rien. Ils vont travailler le matin à 8h du matin.
La place est libre.
La place est libre. Ils partent, la place est libre. Et ils rentrent à 18h le soir.
18h,
Il y a quelqu'un qui peut venir utiliser la place de 9h à 17h toute la journée.
Ça. Et ça lui fait un bénéfice pour lui. Et pour lui, ça ne lui a rien changé puisque, en fait, il ne l'utilise pas.
Exactement. Il fait juste utiliser une place qui était inoccupée. Même D'accord. chose, on peut même aller encore plus loin. J'ai discuté avec différentes personnes. Il y a des locataires, surtout sur Paris ou en Ile-de-France ou Lyon, les grandes villes, ça se fait beaucoup. Ils n'ont pas de voiture. Je leur demande ce qu'ils font de leur place. Elle ne sert à rien.
Ils ne l'utilisent pas, ouais.
Alors qu'ils payent des charges tous les mois dessus.
Moi, j'étais aussi locataire à Paris et j'avais un parking où il y avait, je ne sais pas, 40 ou 50% de place où il n'y avait personne dessus.
Je ne suis pas du tout surpris. Et donc, ça, c'est vraiment un dommage d'inexploiter cette place. Aujourd'hui, avec toute l'artificialisation des sols, enfin tout ce qu'on connaît, les réglementations, où trouver une place de parking, c'est très dur. Quand on va dans des villes, on est obligé de passer par des grands leaders qui mettent des prix complètement déments. Se garer dans la rue, si vous avez un 4x4 ou SUV, moi je suis bien placé pour en parler, j'ai un 4x4 assez imposant. À chaque fois, si je me gare plus de 2 ou 3 heures, je me fais complètement...
Sachant dans des grandes villes comme à Paris, c'est devenu hors de prix.
Exactement.
Tu peux plus te garer, etc. Exactement. C'est fourrière, etc. Si tu ne payes pas, etc.
C'est ça. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle souvent des parkings? C'est parce qu'en fait, la genèse, à la base, elle est venue... Donc je suis marié, j'ai des enfants et je suis une femme qui fait de la sous-location professionnelle.
Ouais.
Donc, elle loue des biens qu'elle exploite après par la suite en Airbnb à côté d'un aéroport. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils venaient en escale, ils dormaient dans les appartements, ils redécollaient le lendemain matin, donc ils n'avaient jamais de voiture. Les places de parking, ils étaient tout le temps inoccupés.
Bien sûr.
Et donc, en fait, on s'est dit, on va les louer. Et on a commencé à les louer, on a cherché une application, on ne trouvait rien, donc on les a mis sur le bon coin. Ouais. Ça a marché en 48 heures, ça se remplissait immédiatement, sauf qu'on avait quand même pas mal de places. Et c'est vite devenu un enfer. Parce que tous les gens nous appelaient, nous demandaient est-ce que c'est disponible de telle date à telle date. Fallait gérer
c'était
des
une vraie gestion à faire.
Mais oui, fallait gérer. C'est comme le Airbnb, vous imaginez, sans l'application. Fallait gérer les horaires, fallait gérer les codes. Les gens, on leur disait faut nous faire un virement. Ils nous disaient mais on vous connaît pas, on va pas vous faire un virement. Si ça se trouve, vous êtes une arnaque.
Donc, en plus,
les gens qu'on avait au téléphone, il y en avait que 1 sur 5 ou sur. Entre 1 sur 5 et 1 sur 10 qui transformaient. C'était devenu un enfer.
Compliqué.
Donc, j'ai dit, il faut absolument qu'on trouve une appli. J'ai cherché une appli en France pour le faire, je n'ai pas trouvé.
Il n'y en avait pas. Donc, c'est là que tu es venu de l'idée, tu as dit, je vais la créer.
J'étais plus loin, j'ai cherché une appli à l'étranger, même aux US. Il n'y en avait pas non plus. Là, je me suis dit, là, il y a quelque chose.
D'accord.
Et c'est là où est venue l'idée de faire Rent to All. J'ai commencé à faire la genèse. Après, j'ai rencontré Perrine Honoré. On s'est associés et elle a fait le développement informatique parce D'accord. que c'était quand même un gros travail.
Donc, toute la partie technique, c'est elle qui l'a
Exactement. Fait. C'est elle qui a développé le site et les idées, toute la structure, c'était okay. moi. Voilà.
Donc, aujourd'hui, vous êtes co-associé dedans.
Exactement.
D'accord. Et pour revenir, tu m'as expliqué ta problématique du Bon Coin. J'ai bien compris, les gens t'appelaient, tu avais plusieurs places, mais il fallait que toi, tu gères toi-même. Tel jour, cette place, elle est prise, celle-ci, elle n'est pas disponible. Alors que là, sur Rent2All, tu mets la place, ils vont te dire si elle est prise, quelqu'un a réservé 4 jours, c'est non disponible.
Exactement.
Même sur Airbnb ou n'importe quelle plateforme.
C'est exactement ça, voilà. C'est le même principe qu'une application de courte durée, sauf qu'en plus, on peut faire aussi de la longue durée, puisque légalement, il n'y a rien qui l'interdit, tout D'accord. simplement.
Donc Fred, tu nous as parlé de Rent2All par rapport à la location de parking.
Oui.
Si tu le veux bien, au tout début que tu as présenté l'application, tu m'as dit on fait aussi toutes les surfaces autres. C'est-à-dire tu m'as parlé de caves, de locaux commerciaux. Moi, ça m'a fait penser à tout ça. Même dans ma tête, moi, j'ai pensé à autre chose parce que j'ai un petit bateau que je loue aussi. Je me suis dit on pourrait avoir un petit bateau dessus. Donc c'est pour les auditeurs qui comprennent bien un petit peu ton application. On peut mettre à la fois des places de parking, ça tout le monde l'a compris, oui. soit pour une voiture, même pour des motos. J'imagine qu'on peut mettre des motos
Exactement,
aussi.
Exactement.
Ça, c'est pas un souci, mais aussi toutes les autres surfaces.
C'est exactement
Et
ça.
Et ça, je pense, quand tu m'en parles tout de suite, je pense qu'il y a tout un potentiel parce que les locaux commerciaux aujourd'hui, quand même, il y en a beaucoup qui se vident, notamment à cause du télétravail.
C'est ça.
Donc, toi, on peut partager tout ça, les locaux commerciaux, des bureaux,
Exactement.
Des caves aussi. Il y a des caves aussi en Île-de-France, etc., ou dans des zones tendues.
C'est ça. Ben c'est exactement ça. En fait, tous ces espaces-là, aujourd'hui, c'est énormément des espaces qui sont inutilisés ou inexploités. C'est-à-dire, même par moment, on discute avec certains propriétaires d'immeubles qui ont une dizaine de caves. On leur demande, mais vous les avez mis dans les baux elles sont louées Et non, parce qu'en fait, ils ont tellement peur d'avoir des gens qui mettent que des cochonneries. Donc, en fait, ils ne s'en servent pas, alors qu'ils pourraient très bien les louer sur Rent2All. Et en plus, c'est eux qui gèrent la durée.
Ouais,
donc, ils peuvent très bien les louer à l'année, ils peuvent les louer à la semaine, selon la zone ou la demande.
C'est vraiment flexible. En fait, ça va enlever Exactement. Le côté d'avoir peur. Là.
Exactement. En fait, c'est vous qui gérez vraiment la durée, le risque, comme vous le voulez. Donc, parce que la plus grosse contrainte aujourd'hui, quand on loue ce type d'espace, c'est d'être engagé sur une longue durée, justement. Alors que là, l'avantage, c'est que c'est vous qui décidez la durée dès le départ. Si vous voulez louer que pendant un mois, deux mois ou trois mois, c'est vous qui le gérez de A à Z.
Tu as une durée minimum, c'est un mois minimum, par exemple
Bah non, puisqu'on peut aussi faire à l'heure, à la journée ou à la semaine. Donc, en fait, on est vraiment libre du mode d'exploitation pour la location et aussi du temps. Donc, voilà.
Donc, sur l'application, tu peux avoir ça très facilement. Tu dis, je veux Exactement. Pour 5 heures ou je veux pour 4 jours, ça se fait tout seul.
Exactement.
Et c'est fluide, tu peux, sans aucun problème.
Exactement.
Bon, en tout cas, vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous parler sur cette application ?
Non, je pense avoir bien résumé. Après, les différents espaces, je l'ai dit. Par contre, il y a vraiment quelque chose d'important. C'est, en fait, l'application, elle permet surtout de louer des mètres carrés. Et vous ne louez pas un locataire. Elle est là, toute la nuance. C'est-à-dire, en fait, vous allez louer, par exemple, un parking, des caves ou des choses comme ça. Vous louez juste une surface au sol. La vraie grosse différence, c'est quoi ? C'est que vous achetez des biens comme ça où vous les louez. Il n'y a pas de travaux. Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas de meubles. Vous n'êtes pas engagé sur une longue durée.
C'est très simple par rapport à un bien immobilier, un studio, quoi que ce
soit. Exactement. Le risque, il est tellement limité.
Faible.
Exactement. Et donc, je rebondis juste par rapport à ça. C'est aussi pour ça, je viens de créer une formation qui s'appelle Mes espaces rentables. Et en fait, cette formation, elle permet justement d'expliquer aux gens qui veulent louer justement ce type d'espace. Il n'y a pas d'autre chose. C'est vraiment que les espaces qui sont sur Rent2All. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas tout le potentiel de ces espaces.
Oui, bien sûr.
Et en fait, il y a des grosses rentabilités à la clé. C'est très courant d'avoir des rentabilités de 15 à 25% sur ce type d'espace. Donc, et en plus, l'accès, même à l'achat, il est extrêmement facile. Mmh. Vous n'avez pas des gros montants, vous n'avez pas des crédits.
8 000 euros, des fois, il y a des places de parking.
Exactement.
8 000 euros, voire moins, etc.
Même moins, oui, ça dépend dans quelle zone vous êtes. Moi-même, j'en ai acheté à 3 500 euros des places de parking, puisqu'évidemment, en découvrant tout ça, je me suis investi énormément dans ce domaine-là, voilà. D'accord. Et je précise, les 60 biens que j'ai, c'était 60 appartements. Je ne compte pas les parkings, tous les annexes à côté,
annexes,
évidemment.
Donc, il y a beaucoup d'annexes.
Voilà.
Donc, aujourd'hui, ces annexes aussi, tu peux les mettre sur ta propre application.
Exactement. Voilà.
Donc, si j'ai bien compris, tu as l'application Rent2All. Donc, elle est disponible sur Apple et sur Android.
Exactement.
Et maintenant, comme tu as vu aussi un besoin, tu peux accompagner des gens sur Mes Espaces Rentables.
C'est exactement
pour leur dire, eh ben voilà, il y a un potentiel si tu voulais acheter, je ne sais pas moi, des places de parking.
C'est exactement
un local commercial et vous pourrez le mettre directement sur notre plateforme. On pourra le gérer.
Exactement, c'est ça. Tout est expliqué en détail dans la formation. Il y a aussi beaucoup de niches, beaucoup de gains, différentes astuces qui permettent de ne pas payer d'impôts en cas de revente sur la plus-value. Il y a beaucoup de petites niches et de choses particulières qui sont dans la formation et qu'il faut savoir dès le début. Voilà.
D'accord.
Bon entendeur.
Vraiment intéressant. Vraiment intéressant ton partage sur la partie Rent2All et sur la partie en fait, entrepreneur. Si tu le vois bien, on va juste revenir sur la partie immobilière.
Oui.
Maintenant qu'on a précisé tout ça. Justement, tu disais que Rent2All, pour Mes Espaces Rentables, ce qui est intéressant, c'est que les parkings, c'est simple, etc.
Oui.
Et aujourd'hui, toi, tu le sais très bien, je le sais très bien également, c'est que le contexte par rapport à mes auditeurs de réussir en immobilier, la difficulté aujourd'hui est beaucoup bancaire.
Ouais.
Et toi, tu dirais aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut acheter son premier bien, qu'est-ce qu'il doit mettre en place en fait, au niveau bancaire pour être sûr de décrocher son premier crédit?
Alors,
tu avais un conseil à donner là-dessus.
Oui, alors moi j'ai une petite expression pour ça. J'aime bien travailler des expressions, c'est simple et tout le monde retient. Moi je dis toujours, il faut rendre belle la mariée.
Donc il y a beaucoup d'apparence là-dessus.
Exactement. Donc ça veut dire que c'est très simple. Hein. Vous faites comme en mode haltérophile. Hein. Qu'est-ce qu'ils font avant d'aller faire une compétition? Ils font ce qu'on appelle de la sèche. Donc ils arrêtent de manger des choses qu'il ne faut pas. Ils font pour tout pour être beau. Donc c'est la même chose pour vos relevés de compte. Hein. Faut arrêter tout ce qui peut être préjudiciable. Donc, éviter les petites dépenses inutiles, surtout pas de jeux en ligne, surtout pas de...
Quand tu parles des jeux en ligne, pas de jeux en ligne sur les comptes bancaires.
Voilà, sur les comptes bancaires, exactement.
Parce que ça se voit et après, on peut être comme un sujet à risque.
Exactement.
Et vous allez être moins finançable. Les gens vont dire, cette personne-là, elle prend trop de risques, donc je ne vais pas y aller. Elle sort tous les mois plus que son salaire en paris sportif.
C'est exactement ça. Il y a des red flags, en fait, pour les banques. Donc, c'est vraiment important de l'élever, de les connaître. Ça, Julien, justement, je pense qu'il expliquera largement dans son suivi, voilà.
Ça, ouais.
Mais ouais, c'est vraiment important. Donc, il faut que vos comptes soient propres. Il faut que vous épargniez aussi. Donc, voilà, il faut que ça, ce soit clean. Vous allez voir la banque avec un dossier bien monté où on explique exactement la rentabilité, où on montre le cash flow qui reste à la fin. Mmh. Ça, c'est vraiment important. Et on dit, voilà, et vous ne dites pas que vous allez en faire 60.
Oui, ça, bien sûr, ouais. Parce que là, ça va être un arrêt.
Exactement. Vous dites que, voilà, vous voulez investir en bon père de famille, que le but, c'est de transmettre à vos enfants derrière, voilà. En gros, il faut réussir à comprendre, quand vous allez voir une banque, il faut réussir à comprendre ce qu'ils veulent entendre. Donc, faites des rendez-vous. De toute façon, même si vous ne financez pas, posez des questions. Savoir en gros qu'est-ce qui n'a pas été, savoir le pourquoi du comment. Il faut toujours savoir pourquoi on vous a refusé un prêt et vous vous adaptez. Et 2 ou 3 mois après, vous retournez voir.
Une banque ou une autre, tout à fait.
Exactement. Et voilà, vous apprenez de vos erreurs. Encore une fois, vous apprenez de vos erreurs, vous améliorez. Et la fois suivante, ça sera beaucoup mieux.
Ça, c'est important à le dire pour les auditeurs parce qu'il y a des gens, et moi je l'ai vu, même dans des collègues, où ils te disent non, moi je peux pas, j'étais voir ma banque, je peux pas acheter. Ils m'ont dit non.
Ouais.
Oui, mais pourquoi tu n'as pas été en voir une deuxième? Et en fait, ils ne vont pas.
Ouais.
Non, on m'a dit non, c'est comme ça.
Exactement. En fait, ils prennent pour argent comptant tout ce qu'on leur dit.
C'est ça.
Et il n'y a rien de pire que votre première banque, parce que votre première banque, elle va sûrement vous dire non, parce qu'elle a envie que vous laissiez votre épargne chez eux.
Oui, ouais, c'est sûr qu'il ne faut pas l'investir.
Exactement. Elle n'a pas envie qu'il soit sorti.
Ouais.
Donc, en plus, c'est vrai que les banques un peu classiques aujourd'hui sont quand même assez freinées sur l'immobilier. Ça n'a pas trop le vent en poupe. Donc, voilà, moi, j'ai été obligé quand même ces derniers temps de faire principalement mes investissements sur des banques professionnelles.
Mmh,
et voilà.
Les banques, c'était
exactement, parce qu'eux, ils ne sont pas bridés niveau taux. Chaque dossier est étudié directement. Il n'y a pas vraiment le principe de l'endettement qui est pris en compte. Mais malheureusement, tout ça, ça a un prix, des frais de dossier excessifs, des taux excessifs et des apports excessifs. Mais ça, prendre ou à laisser, c'est les affaires.
D'accord.
Voilà.
Bon, au moins, c'est précis là-dessus. Une autre question que j'ai par rapport à l'immobilier. Tu sais, on dit souvent, les gens, c'est une urgence, c'est plus une urgence vitale d'acheter sa résidence principale, alors que l'investissement locatif, c'est un plus. Mais aujourd'hui, si vous n'achetez pas d'investissement locatif, vous pouvez continuer à vivre sans problème. Et toi, comme tu en as beaucoup, qu'est-ce qui fait, en fait, que tu es toujours, en fait, dans l'urgence d'en racheter d'autres, de créer cette urgence, en fait? Ça, c'est, tu vas me dire, c'est personnel à chacun?
Oui, c'est personnel à chacun, mais je peux l'expliquer autrement. Tout le monde crache sur l'argent. Mais honnêtement, quand on se rend compte au bout de 4 immeubles qu'on a déjà remplacé son salaire de directeur, qu'on fait les autres immeubles derrière et donc on se met à avoir des revenus assez conséquents, pourquoi est-ce qu'on se priverait d'aller encore en refaire d'autres derrière et d'augmenter son train de vie? Voilà. Après, moi, j'aime bien l'immobilier. J'aime bien me mettre des challenges. Oui. J'ai un peu le goût du risque quand même c'est et j'aime bien voilà, me challenger.
Pour te connaître aussi, je pense qu'il n'y a pas qu'une question d'argent, il y a une question de challenge.
C'est ça aussi. Et d'ailleurs, il y a aussi un état d'esprit qui peut être important de comprendre aussi pour lever les freins psychologiques. C'est que tout le monde était surpris, et ça, je le fais depuis un moment. C'est quand j'achète des immeubles, je ne me pose pas la question du financement. Je ne me pose pas la question... je vois un immeuble... qui a
un potentiel
avec une grosse rentabilité et surtout un gros cash flow, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ça que je cherche. Je cherche des gros cash flows à la fin du mois sur ces immeubles. Donc, ça m'augmente mes revenus directement. Quand je vois ça, j'y vais. Il n'y a aucune question de financement. Je ne sais même pas quelle banque ni rien. J'y vais, je signe, je prends l'affaire. Parce que c'est que du business. Je prends l'affaire.
C'est qu'après, à ce moment-là, tu te dis, il va falloir que je cherche... un financement
exactement.
Pour l'achat de cet immeuble.
Exactement. Et c'est là où je me pose la question. Qui je vais aller voir? Chez qui je vais me faire financer? Si même je n'ai pas l'apport et que c'est une très bonne affaire, je vais me débrouiller autour de moi dans les relations. Je trouverai des gens qui seront au pire, prêts à s'associer avec moi ou à faire la bonne affaire. Donc tout ça, c'est des freins. En fait, les gens, ils veulent tous... c'est aussi un peu le problème de la France, c'est qu'on est tous dans la sécurité. Tout le monde a peur de tout. Donc tout le monde... attend d'être à 98 ou 99, voire 100% d'être sûr de son coût pour passer à l'action.
Alors là, c'est pas possible.
Mais vous ne serez jamais sûr de
c'est
rien.
C'est impossible.
Mais c'est de l'immobilier.
Ouais.
On n'est jamais sûr de rien. Déjà,
sur d'autres projets, c'est pareil.
Mais déjà, c'est impossible. Déjà, on loue à des humains, on loue à des gens. Donc, si vous voulez attendre d'être sûr de tout, vous ne serez jamais sûr à 100%. À chaque locataire, vous prenez des risques.
On va faire ça.
Exactement. Maintenant, la vraie question... c'est justement de limiter son risque, de faire des calculs, des choses ordonnées, d'être formé et de faire les choses bien pour avancer et enchaîner. Et en plus, pourquoi est-ce que je continue à en faire? Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même dans un confort.
Ça tourne.
Voilà, et en toute modestie, je pense connaître un peu le domaine des immeubles et un peu le marché. J'ai aussi investi assez loin. Dernièrement, j'ai acheté un immeuble à Perpignan, à l'autre bout de la France. Donc, ça a été très dur au début, mais pareil, je me suis adapté. Si j'arrive à gérer un immeuble de 9 lots à l'autre bout de la France à distance, ça va.
Je suis
capable d'en faire d'autres dans différents secteurs.
Voilà, plus proche de chez toi.
Voilà.
Et là-dessus, justement, sur l'IMO, si tu devais recommencer aujourd'hui en tenant compte du contexte, est-ce que tu recommencerais avec de l'immeuble de rapport? Tu ferais des parkings, locaux commerciaux ou tu ferais peut-être différemment?
Ah, c'est délicat. Il y a beaucoup de paramètres parce que c'est aussi mon expérience qui fait que c'est pareil. On parlait du fait que j'avais pas investi quand j'étais jeune, mais j'avais pas non plus la même hargne qu'à l'époque de maintenant. Si j'avais, alors je vais répondre quand même. Mais si j'avais les connaissances de maintenant et que je devais reprendre maintenant, parce que ça sert à de refaire le film à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes taux, il n'y avait pas tout ça. Mais on n'avait pas non plus le même accès à l'information.
C'est ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup.
Exactement.
Même peut-être trop, parce que les gens ne s'y retrouvent plus.
Oui, et on leur dit tellement de... On leur vend tellement du rêve. Exactement. Faut beaucoup aller... Tiens, d'ailleurs, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est aller aux événements immobiliers. Exactement, nous on se voit régulièrement sur des événements physiques.
On s'est rencontrés d'ailleurs sur un voyage, je me souviens, au Sri Lanka il y a quelques années.
Exactement, c'est ça. Et donc, il faut aller sur ces événements physiques. On rencontre avec des gens et pas des gens novices. On rencontre avec des gens qui ont fait. Il faut discuter avec les gens qui ont fait. Alors, chacun son niveau. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai discuté avec des gens qui avaient 2-3 appartements. Et au fur et à mesure, après, j'ai discuté avec des gens qui en avaient 10, des gens qui en avaient 50 et des gens qui en avaient 100, voire 200. Mmh. Donc, c'est plus du tout les mêmes discussions et les mêmes problèmes. On n'est plus du tout dans les mêmes discussions. Mais c'est important de discuter avec des gens qui ont fait, parce qu'il y a aussi des choses qui sont... Il y a des astuces, il y a des tips, il y a plein de petites... voilà. En fait, dans l'immobilier, il faut être aussi un peu malin. Et les petites astuces de malin, souvent, elles se disent dans ces events. Voilà,
ouais, exactement. Elles ne se disent pas sur les formations sur Internet.
Exactement.
D'accord. Et pour conclure, tu vois, pour finir, j'allais dire, est-ce que tu as une citation, un mantra, un film ou un livre qui t'a marqué, en fait, en tant qu'investisseur ou entrepreneur ? Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent comme ça ?
Oui, j'ai un livre qui m'a déclenché. Alors, j'étais déjà dans l'immo, j'avais déjà globalement fait pas mal d'immeubles. Et ce qui m'a fait basculer dans l'entrepreneuriat, où là, j'ai eu un espèce de miroir qui s'est mis face à moi, c'est quand j'ai lu « Réfléchissez, devenez riche ».
Ah oui, je connais très bien de Napoléon
Hill. Exactement.
C'est ça, ouais.
En plus, il était très, très court, il m'a mis une baffe.
Ouais.
Je l'ai lu en 2 jours.
Même si tu me le dis, tu vois, ça me remonte aussi les émotions.
Ouais, j'ai des frissons.
Ça fait des frissons un peu.
Mais c'était un espèce de miroir. Et d'ailleurs, ce monsieur, tout le monde l'a considéré fou dans son époque. Et aujourd'hui, mais il avait tellement raison. Et donc, il faut lire ce livre. Et en fait, j'ai vraiment compris que le fait d'avancer, d'entreprendre, d'y aller coûte que coûte et arrêter de se faire des nœuds cerveaux, d'ailleurs, de se faire mal au ventre.
Ouais.
Faut soi-même passer à l'action. Arrêtez de réfléchir, arrêtez d'avoir peur. La peur, c'est un instinct animal. Le risque, il se calcule. Vous avez vos risques qui sont calculés. Vous savez où vous allez. Passez à l'action. Voilà le mot.
Ça, on peut vous dire au moins que c'est vraiment très bien là-dessus. Au moins, action et arrêtez de réfléchir.
C'est ça.
Donc, j'allais te demander si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui n'a jamais en fait investi. Ou qui a signé son premier bien, mais c'est ça.
Oui, voilà, c'est exactement
la chose.
C'est ça.
Bon, en tout cas, merci Fred pour ce partage d'expérience vraiment incroyable. Par rapport à Rent to All, on va mettre le lien en description. Il y aura aussi une réduction avec un code qu'on vous mettra. Et si vous souhaitez vous abonner aussi sur la chaîne Réussir en immobilier, abonnez-vous. Le lien sera en description juste en dessous.
Merci Julien, à bientôt.
Merci à toi.